Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appelle les 12, et pour la première fois, il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter sur la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.
Acclamons la parole de Dieu.
Dans ce passage de saint Paul que nous avons failli ne pas avoir, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Si Dieu nous a d'avance destinés, est-ce donc que nous sommes prédestinés? Ce passage ramène cette grande question de la prédestination qui a tant inquiété les chrétiens à une certaine époque. Si Dieu nous a tous destinés à recevoir son salut, comment y a-t-il des hommes qui ne croient pas? Est-ce que Dieu ne les a pas prédestinés, eux? Non. La prédestination dont parle saint Paul n'est certainement pas celle-là. Elle veut dire que Dieu a d'avance aimé tous les hommes. Elle veut dire que Dieu n'a pas attendu que chaque homme lui prouve ce qu'il valait pour lui proposer son amour. Tous, bien avant que nous ayons pu le mériter, Dieu nous a aimés. Dieu est mort pour nous aussi, bien avant que nous naissions. Et il attend de notre part une réponse. Et cette réponse est libre. Donc la prédestination est bien une réalité de notre foi, mais c'est une prédestination universelle, c'est-à-dire qu'elle touche tous les hommes, une prédestination au salut à condition que nous le voulions. Rien à voir donc avec l'explication qu'en donnaient les jansénistes, Dieu n'aurait choisi que certains hommes, les prédestinés. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce qu'il ne faut pas retenir, car vous risqueriez de ne retenir que cela. Et c'est bien parce que Dieu nous a d'avance destinés à recevoir son amour et que nous n'y répondons pas forcément, qu'il nous envoie les prophètes. Si le salut ne dépendait pas de nous et de nos mérites, Dieu n'aurait pas besoin d'envoyer ses prophètes pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler à lui. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Telle est la mission des disciples de Jésus, des disciples que Jésus envoya, les 12, et mission qui se transmet jusqu'à nous, à nous prêtres, et puis bien sûr à tous les fidèles, en vertu de leur baptême. Dans les textes d'aujourd'hui, nous avons trois exemples de prophètes. D'abord, le malheureux Amos qui qui n'est pas reçu chez lui. On lui demande d'aller prêcher ailleurs. Saint Paul ensuite, et l'exemple des 12. Dans tous les cas, c'est bien Dieu qui est à l'initiative du prophète. Et bien souvent, le prophète répond à Dieu, « Mais qu'as-tu à m'envoyer ? Moi, je ne suis bon qu'à garder les vaches. » Et Amos était bouvier. Il y a donc une crainte de la part du prophète d'être responsable de transmettre la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'envoie, qui le revêt de son autorité et qui l'accompagne. Est-ce que nous aimons qu'un prophète vienne nous rappeler qu'il faut se convertir? La première lecture nous donne un exemple de la difficulté qu'il y a à recevoir un prophète. Va voir ailleurs, dit-on à Amos. Croyons-nous vraiment que le prophète vient de Dieu, que sa parole n'est pas sa parole mais celle de Dieu? Si tel était le cas, nous l'accueillerions sans doute avec beaucoup plus d'attention. Si vraiment nous avions conscience que c'est la parole de Dieu qui nous vient par lui, eh bien nous lui dirions « Attends un peu que je prenne de quoi noter pour ne perdre aucune des paroles que Dieu veut me dire. » Le prophète, c'est un familier de Dieu qui, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, est fidèle à sa parole. Si nous avions, et peut-être certains parmi vous ont des procès, quand il s'agit de nos affaires, eh bien, nous sommes d'ardents défenseurs de la vérité. S'il s'agit de notre intérêt, eh bien, nous ne laissons échapper aucune parcelle de cette vérité et nous battons autant que nous pouvons pour la faire reconnaître. Le prophète, c'est l'homme qui a consacré sa vie à Dieu et qui fait de la vérité de Dieu sa vérité. Cette exigence de vérité, eh bien, elle s'applique à chacun d'entre nous comme au prophète, puisque c'est à chacun d'entre nous que Dieu adresse sa parole, que Dieu offre sa vérité. Les prophètes, nous pourrions nous dire que ça n'existe plus. Les prophètes, c'était une réalité du temps de Jésus et bien avant. Mais est-ce qu'il y a encore des prophètes parmi nous? Nous voyons que déjà au temps de Jésus, eh bien, on n'accueillait pas les prophètes comme prophètes. On n'a pas dit, enfin 600 ans avant Jésus, on n'a pas dit à Isaïe, c'est donc toi le grand prophète Isaïe? Et d'ailleurs, il a bien mal terminé, comme tous les prophètes. Il y a toujours donc une difficulté à accueillir le prophète. Le prophète nous renvoie à notre foi. Si nous n'avons plus la foi, si nous n'avons plus ce regard surnaturel sur les événements, si notre cœur est endurci, eh bien, nous ne pouvons plus accueillir le prophète. Il y a deux raisons qui peuvent nous toucher et nous empêcher d'accueillir les prophètes dans la foi. La première serait l'oubli que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Le prêtre de l'Ancien Testament, qui renvoie à Amos par exemple, il y a bien Dieu à l'origine de sa fonction sacerdotale. C'est bien Dieu qui a suscité les prêtres de l'Ancien Testament pour lui présenter les sacrifices. Et pourtant, voilà que ce malheureux prêtre s'est installé en quelque sorte dans sa fonction et est devenu incapable de recevoir dans la foi ce que Dieu a à lui dire. Il y a une autre raison qui nous touche plus particulièrement aujourd'hui, qu'on appelle le relativisme. Aujourd'hui, je pense que s'il se levait de nombreux prophètes parmi nous, eh bien, ils ne gêneraient personne. Parce qu'on se dirait très vite, eh bien, il pense ce qu'il pense, c'est son choix. Et moi aussi, je pense ce que je pense, et tout va très bien comme ça. Si chacun a sa vérité, ou si chacun est sa propre vérité, eh bien, Dieu ne peut plus venir à nous pour nous remettre sur le chemin qui mène à lui. Dieu ne peut plus rien nous dire, et nous n'avons plus rien à nous apporter les uns aux autres. Être chrétien, cela nécessite d'être en recherche. Cela nécessite de reconnaître que la vérité ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle est extérieure à nous, qu'elle nous dépasse et que, humblement, nous avons à y entrer, nous avons à la découvrir. Elle ne s'impose pas à nous, puisque la vérité, c'est une personne, c'est le Fils de Dieu. Et cette personne nous aime. Donc la vérité, c'est un grand mystère d'amour. Pourquoi aurions-nous encore besoin des prophètes aujourd'hui? Les prophètes sont la voix de Dieu, la voix qui vient nous remettre sur le chemin de cette vérité. Et nous savons que Dieu est notre Père, mais nous préférons souvent nous dire qu'il est un Père plein de tendresse et que dans sa tendresse, il serait bien incapable de nous reprendre. Mais quel est le Père qui, aimant son enfant, ne lui dit jamais, ne le reprend jamais, ne lui dit jamais « Là, fais attention, tu vas te blesser. » Et un Père qui serait comme ça, ce serait justement une grande méprise pour l'enfant. Comme dit Saint Paul dans un autre passage, il n'y a que les bâtards qui ne sont pas éduqués. Dieu est un Père qui nous aime infiniment et si nous nous laissons reprendre par lui, nous savons que c'est pour notre bien et c'est par amour qu'il le fait. Enfin, un prophète, ça ne sert à rien. Quand on coche les cases qui correspondent à notre corps de métier, à notre situation, il n'y a pas la case prophète, précisément parce que ça ne rapporte rien. Ça ne présente aucune efficacité. Et pourtant, le prophète est celui qui vient apporter aux hommes, qui vient révéler aux hommes le secret de leur existence, le sens de leur vie, au cas où ils l'auraient perdu. Et nous voyons dans la première lecture une phrase que je trouve assez violente. Quand le prêtre Amasias dit à Amos « Va-t'en d'ici, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Amasias réduit Amos à son métier, à son besoin de gagner de l'argent. Là, c'est bien sûr spécialement choquant quand il s'agit d'un prophète qui a consacré sa vie à Dieu par amour pour Dieu et sans doute pas pour gagner de l'argent. Mais je pense que c'est une réalité qui touche chacune de nos vies. Est-ce que nous pouvons laisser notre situation, l'argent que nous gagnons, définir notre vie? Est-ce que quand nous nous orientons, c'est seulement le salaire qui nous est proposé qui va décider où nous irons? Nous sommes beaucoup plus que tous ces paramètres. Nous sommes beaucoup plus que le métier que nous faisons. Nous sommes beaucoup plus que l'argent que nous gagnons. Chaque personne est un mystère unique aux yeux de Dieu. Chaque personne est appelée par Dieu à rejoindre son amour, à rejoindre sa béatitude. Et donc, bien au-delà de ce que nous faisons, de ce que nous gagnons, eh bien, il y a cet amour de Dieu pour nous. Il y a une vocation, un appel de Dieu. Demandons dans ce dimanche consacré au prophète de savoir rester dans notre vie chrétienne à la recherche de la vérité, de savoir sans cesse redécouvrir l'amour que Dieu nous propose, cet amour qui n'est pas conditionné par nos mérites, qui est proposé à tout le monde, mais qui nécessite de chacun une réponse libre, une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Amen.